Merci, docteur de la Doucette. Vous l'avez dit, effectivement, il faut se mobiliser. Pas de recherche sans don. La recherche, justement, on y vient. On va passer cette première partie, un petit peu plus scientifique, à parler des actualités médicales, thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer. Avec vous, professeur Frédéric Blanc, neurologue, co-responsable du Centre Mémoire des Ressources et Recherches des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Et vous allez tenter de répondre à cette question que l'on se pose tous. La maladie d'Alzheimer est-elle génétique ? Je vous laisse la parole.
Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, merci d'abord à la Fondation Recherche Alzheimer d'être venue pour ces entretiens. Alors moi, je suis le local de l'étape, hein, puisque je suis sur Strasbourg. Je suis professeur de gériatrie, neurologue et gériatre de formation. Et donc, je coordonne le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, ainsi que je suis co-responsable d'une équipe du laboratoire ICUB, qui est un des grands laboratoires de Strasbourg, le premier grand laboratoire de Strasbourg étant l'IGBMC, que vous connaissez sans doute, à Ilkirch, et le second ICUB sur Strasbourg. Alors, cet après-midi, Madame a posé tout à l'heure une question sur la maladie à Cordes-Lévy, donc je ne vais pas m'empêcher de parler un petit peu de maladie à Cordes-Lévy, mais je vais d'abord rentrer dans le vif du sujet, qui est la question de la génétique dans la maladie d'Alzheimer. Alors, la génétique dans la maladie d'Alzheimer, j'ai repris là une diapositive du docteur David Wallon, qui est vraiment le spécialiste français sur la question de la génétique, on va dire, du point de vue du côté clinique en France. Il est sur Rouen. Et je trouve que cette diapo est très intéressante, puisque vous avez d'un côté le risque qu'on peut développer cette maladie qui va de très faible jusqu'à fort. Et puis de l'autre côté, vous avez la fréquence du gène dans la population. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une sorte de courbe qui partirait du haut et qui irait vers le bas, comme ceci, avec d'un côté ici le risque très fort qui est en lien avec des mutations très particulières qui sont des mutations qui favorisent l'accumulation des lésions de la maladie d'Alzheimer, en particulier les lésions amyloïdes dont on a dû vous parler précédemment. Et puis, vous avez des choses qui sont plus fréquentes, mais qui, au bout du compte, agissent peu en tant que facteur de risque, c'est-à-dire qu'il y a certains gènes comme BIN1, PICALM, qui sont ici, qui sont effectivement des facteurs de risque, qui sont fréquents dans la population, mais qui, au bout du compte, augmentent très très peu le risque de maladie d'Alzheimer. Ça l'augmente un tout petit peu, de l'ordre de quelques pourcents. Alors, ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer génétique à proprement parler, c'est vraiment très peu de patients en France, c'est-à-dire environ 1000 patients en France. Si on estime qu'on a 800 000 à 1 million de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer en France, on peut dire qu'il y a un peu moins de 1 patient sur 1000 qui a une forme génétique. Donc vous voyez que ça représente peu de personnes. À l'inverse, dans une autre maladie, qui est la maladie frontotemporale, que vous connaissez peut-être, eh bien 30% des patients ont une origine génétique. Donc vous voyez que dans la maladie d'Alzheimer, très peu de génétique au sens mendélien, c'est-à-dire mon papa est malade, je suis moi-même malade et puis mes enfants seront malades, ou un sur deux malheureusement. Ça c'est ce dont on parle ici, c'est-à-dire 1000 patients en France, c'est très peu, mais c'est très embêtant. Et ce qui va caractériser ces 1000 patients qui sont en France, eh bien, c'est que c'est des formes qui commencent très tôt, qui commence avant 50 ans en général, mais on va en reparler. Les trois gènes impliqués sont présénéline 1, on appelle ça aussi PSEN1, présénéline 2, vous voyez chromosome 14, chromosome 1, et APP pour protéine précurseur de l'amyloïde, qui est le chromosome 21. Je fais une petite parenthèse parce qu'elle est importante. Vous connaissez sans doute la trisomie. La trisomie, c'est la trisomie 21. C'est une maladie qui fait qu'on a trois chromosomes 21 au lieu de deux. Et bien malheureusement, les patients atteints de trisomie 21 font très très fréquemment une maladie d'Alzheimer. Et ils ne la font pas à 70, 80, 90 ans, ils la font souvent avant 50 ans. Je suis plusieurs patients atteints de trisomie 21 qui malheureusement ont développé une maladie d'Alzheimer. Alors, la clinique de la maladie d'Alzheimer génétique à proprement parler, Je vous le disais, en général, c'est avant 65 ans. Et dans plus de la moitié des cas, ça commence avant 50 ans. Donc vous voyez que c'est complètement à l'inverse de ce qu'on vous a dit précédemment, où la maladie d'Alzheimer apparaît plus tôt, après 70, 80, 90 ans, évidemment. Les tableaux cliniques, c'est soit avec des troubles de la mémoire, ça c'est dans la grande majorité des cas, vous voyez, dans plus des trois quarts des cas, certaines études disent 90% des cas. Et puis il y a des tableaux atypiques. Atypiques, c'est-à-dire que, alors que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui ne donne pas du tout théoriquement de problèmes moteurs, eh bien, dans ce cas-là, vous avez des patients qui ont aussi des problèmes moteurs, c'est-à-dire ils vont avoir des problèmes pour marcher, c'est ce qu'on appelle la paraparésie, mais vous allez avoir aussi des patients qui vont faire un syndrome parkinsonien, et ce syndrome parkinsonien, avec troubles cognitifs, eh bien, c'est en fait une maladie à corps de Lévy, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis vous avez des variants, alors il y a aussi des formes ataxiques, c'est-à-dire des patients qui ont des troubles de l'équilibre. Et vous avez des patients qui ont une épilepsie précoce, ou des patients qui vont être frontal au premier plan, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord avoir des troubles du comportement avant d'avoir des problèmes cognitifs. Encore une fois, 1000 patients en France, en général avant 50 ans, donc c'est des formes très très particulières. Après, mon collègue le docteur de la Doucette en a parlé, c'est l'APO, lipoprotéine E4 ou APOE4. Alors l'APO lipoprotéine ou les APO lipoprotéines, vous avez les APO lipoprotéines A, B, etc. Et vous avez les apolipoprotéines E. Eh bien, ces apolipoprotéines E, vous en avez différents sous-types. Vous avez de l'apoE2, de l'apoE3, de l'apoE4. Nos collègues de Rouen, toujours dans le cadre d'une étude européenne et internationale, ont démontré que cette apolipoprotéine E4, quand elle était présente, et quand elle était présente deux fois, puisque nous avons à l'intérieur de notre génome, c'est-à-dire de notre ADN, toujours deux copies. Donc c'est ce qu'on appelle deux allèles, c'est toujours en double. Et bien quand cette apolipoprotéine, ce gène de l'apolipoprotéine est présent sur de façon 4, c'est-à-dire APOE4, APOE4, et pas APOE2 ou APOE3 ou peu importe, et bien à ce moment-là, ça multiplie par 14,5 le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc c'est énorme. A l'inverse, si vous avez uniquement de l'APOE4, mais de l'APOE3 ou de l'APOE4 et plutôt de l'APOE2, donc pas, vous n'êtes pas purement APOE4, à ce moment-là, le risque est multiplié par 3, à 2,5, 3,5 à 2,5. Donc, ce facteur de risque est important. Il est assez fréquent dans la population générale, mais pour autant, le double APOE4 est très rare et pour autant, il va multiplier par 14,5 ce risque de maladie d'Alzheimer. Alors, une autre manière de le voir, c'est de regarder finalement le risque cumulé de la maladie d'Alzheimer en fonction de l'âge. Et vous pouvez voir ici que donc, les patients qui sont APOE4, ici en violet, eh bien, chez les hommes, on arrive à 85 ans à 51% de maladie d'Alzheimer. Et chez les femmes à 85 ans, toujours à 67, on va dire 68% de maladies d'Alzheimer. Donc vous voyez que c'est un facteur de risque majeur, mais j'insiste, rare néanmoins. Et à l'inverse, si vous êtes APOE2 ou APOE3, eh bien cette proportion de maladies d'Alzheimer est bien moindre. On est aux alentours ici de 6 à 10%. Ce qui est, au bout du compte, ici, en dessous de ce qu'on retrouve dans la population générale. Donc, plutôt protecteur ici. Un peu à part de ces questions génétiques, il y a d'autres facteurs de risque. Ces facteurs de risque qui sont encore plus rares, mais qui sont des facteurs de risque qui aussi entraînent un risque non négligeable. C'est des facteurs de risque génétiques qui étaient découverts récemment. Alors c'est SORL1, TREM2 et ABCA7. Ces facteurs de risque, vous voyez, multipliés par 3, 6, à 2,5, le risque de maladie d'Alzheimer. Et en fait, ils ont différents rôles. Par exemple, SORL1 a un rôle important dans le neurone et dans, si vous voulez, la transmission neuronale. TREM2 a un rôle dans l'inflammation cérébrale. Et ABCA7 a un rôle dans le transport et ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire le passage du sang vers l'intérieur du cerveau. C'est intéressant parce que probablement que ces éléments-là, la découverte de ces gènes nouveaux facteurs de risque, sont des éléments qui vont nous permettre aussi de mieux comprendre la maladie globalement, puisque vous voyez que là, il y a certainement un rôle de l'inflammation qui est non négligeable, avec TREM2 qui multiplie par plus de 6 le risque de maladie d'Alzheimer. Alors, conclusion pour la génétique, eh bien, les formes génétiques pures sont très rares, un patient sur 1000, en général débutant avant 50 ans. Il y a un facteur de risque important qui est la polypoprotéine E4. Si deux allèles sont présentes, ça multiplie par 14,5 le risque de maladie d'Alzheimer. Et de nouveaux facteurs de risque génétiques ont été découverts et ils permettent ainsi de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. Je pense en particulier à l'inflammation, qui est un élément important du développement de la maladie d'Alzheimer. Pour vous donner un exemple, et ça c'est une expérience clinique qui a d'abord été décrite par nos collègues anglais, en particulier l'équipe de Southampton, on a montré que si des patients faisaient des phénomènes inflammatoires, par exemple une infection, par exemple une opération, par exemple un traumatisme crânien, mais aussi un traumatisme à l'épaule, à la hanche, donc une fracture par exemple, eh bien tous ces patients vont accélérer les troubles cognitifs et vont avoir plus de troubles cognitifs et pour certains ne reviendront pas en arrière. Donc c'est vraiment important, si vous voulez, quand le patient est atteint de maladie d'Alzheimer, qu'il soit protégé et que s'il y a une infection, qu'on traite cette infection rapidement, que s'il fait un problème de chute et qu'il y a des complications, que ces complications soient traitées et le plus rapidement possible. Alors maintenant, un petit mot rapidement, parce que c'est important que je vous parle de Strasbourg et de l'Alsace, pour vous dire que notre groupe, en collaboration avec l'ensemble des centres mémoire, ainsi que les neurologues de l'ensemble de l'Alsace, eh bien, nous participons à des essais thérapeutiques sur la maladie d'Alzheimer. On a dû vous parler de certains de ces essais thérapeutiques tout à l'heure, sur les essais thérapeutiques auxquels nous participons actuellement. D'abord, un médicament qui est un antidiabétique oral est intéressant parce qu'il a été testé dans le diabète et on s'est rendu compte à partir de 10 000 patients qui ont été inclus dans ces essais thérapeutiques sur le diabète que les patients qui avaient ce médicament par rapport aux patients qui n'avaient pas ce médicament, ce qu'on appelle le groupe placebo, eh bien, les patients qui avaient le médicament développaient deux fois moins de maladies d'Alzheimer. Donc comme si cet antidiabétique pouvait être protecteur potentiellement. Mais ça ne démontre pas que cet antidiabétique est réellement protecteur. Donc il faut faire une étude spécifique chez les patients à un stade très précoce de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle le stade prodromal. Et c'est ce qui est fait par Novo Nordisk, qui est un laboratoire danois. Ensuite, il y a la question des algues. Alors là, ça vient de très loin, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Le laboratoire de Green Valley, c'est un laboratoire chinois. Qui, à partir de données notamment japonaises mais aussi chinoises, se sont rendus compte que finalement ceux qui consommaient des algues, ceux qui habitaient au bord de la mer, pouvaient avoir moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Ils sont allés plus en profondeur sur la question de ces algues et donc ils ont développé un médicament dérivé de ces algues que nous commençons à tester sur Strasbourg, mais qui est testé aussi dans d'autres endroits en France et dans le monde. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, puisqu'on parlait de génétique à l'instant, la polypoprotéine 4. Chez les patients à polypoprotéine 4, il y a 10 ans de cela, un laboratoire avait montré que le tramiprosate avait un intérêt dans, la maladie d'Alzheimer. Globalement, sur la maladie d'Alzheimer, il n'y avait pas d'intérêt, mais chez les patients qui avaient de la peau E4 deux fois, donc APOE4, ces patients-là allaient mieux du point de vue de leur maladie d'Alzheimer par rapport à ceux qui ne prenaient pas ce médicament. Donc là, c'est le laboratoire Alzeon qui développe ce médicament et que nous sommes en train de tester. Après, on a dû vous parler tout à l'heure aussi de la maladie d'Alzheimer et de ces fameuses plaques amyloïdes. Eh bien, nous sommes en train d'essayer, actuellement sur Strasbourg, comme dans d'autres endroits, des anticorps contre la plaque amyloïde. Alors, leur nom, c'est gantenerumab, aducanumab, lecanemab, peu importe. Ce sont donc des médicaments qui sont en fait des anticorps contre la plaque amyloïde. Il se trouve que celui-ci, qui est l'aducanumab, a reçu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, mais il faut dire les choses très clairement, pour l'instant, il n'a pas été démontré de bénéfice clinique de ce médicament. Il y a pour l'instant simplement un bénéfice sur la disparition ou la nette diminution des plaques amyloïdes, mais ça ne suffit pas à dire que ça a un intérêt pour le patient. Donc les études sont toujours en cours, même si les Américains ont décidé de le mettre sur le marché aux États-Unis. Et puis il y a quelque chose d'original qui est en cours, qui est une antitoxine contre une bactérie de la bouche qui est Porphyromonas gingivalis. Il y a des données donc, à l'ouest des États-Unis, en Californie notamment, qui montrent qu'il y aurait la présence de bactéries dans le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer de façon très fréquente, et notamment de cette bactérie qu'on appelle Porphyromonas gingivalis. Et donc Cortexim, qui est un laboratoire donc nord-américain, a développé une toxine, une antitoxine pour empêcher le développement et l'épanouissement de cette bactérie qui aurait un rôle délétère dans la maladie d'Alzheimer. Alors voilà le fameux aducanumab qui a été développé par un laboratoire nord-américain et qui a été autorisé à être mis sur le marché aux États-Unis pour vous montrer que finalement, avant traitement, après traitement, dans le groupe placebo, c'est-à-dire dans le groupe où finalement il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de différence en termes d'évolution des plaques, les plaques que vous voyez ici en rouge, tandis qu'à 3 mg kilo, 6 mg kilo, donc différentes doses de aducanumab, vous avez une baisse drastique de ces plaques amyloïdes, et c'est ce qui leur a permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Attention, j'insiste là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire sur l'intérêt clinique. Voilà. Reste à savoir si nous allons avoir l'autorisation d'utiliser en France. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Je pense que si nous avions l'autorisation d'utiliser en France, ce serait de façon très contrôlée, notamment par une ATU, ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation, et il faudrait à chaque fois passer par le ministère de la Santé pour pouvoir obtenir ça. Mais pour l'instant, les discussions, à ma connaissance, n'ont pas commencé, mais si elles commençaient, ça pourrait être intéressant éventuellement, mais il nous faudrait plus de données cliniques. Alors, vous parliez, il y avait une question tout à l'heure sur la maladie à Cordelevy, merci beaucoup de cette question. Il se trouve que nous faisons aussi des essais thérapeutiques sur la maladie à Cordelevy. Mais malheureusement, les laboratoires pharmaceutiques sont moins motivés par la maladie à Cordelevy. C'est assez incompréhensible parce que, comme je vais vous le développer juste tout à l'heure, la maladie à Cordelevy est quand même très fréquente. Ça représente 150 000 à 300 000 personnes en France. Et avec Jack Fouché, que vous voyez ici, nous avons décidé de développer un système de stimulation magnétique transcrânienne, donc une stimulation focale à un endroit très précis du cerveau, endroit dont on pense que c'est là que se développe au début la maladie à Cordelevy. Et l'essai thérapeutique va commencer donc le mois prochain sur Strasbourg, qui va être un essai, ce qu'on appelle de proof of concept, donc de preuve de concept, c'est-à-dire pour voir si c'est faisable chez les patients atteints de maladie à Cordelevy, de les stimuler. Il faut savoir que, évidemment, cette stimulation n'est pas douloureuse, elle n'est pas tout à fait extérieure, ça n'est pas une stimulation électrique, mais une stimulation magnétique. Voilà, ça c'est de la recherche. Et un tout petit mot sur la maladie à Cordelevy comparé à la maladie d'Alzheimer, parce que c'est important d'avoir une bonne notion de cela. Je vous en parle parce que notre centre est leader en France sur la maladie à Cordelevy et nous faisons partie des 10 premiers centres mondiaux, enfin non, européens, excusez-moi, sur la maladie à Cordelevy en termes de recherche et les 15 premiers centres mondiaux sur la maladie à Cordelevy. Nous, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le comparatif entre maladie d'Alzheimer et maladie à Cordelevy, mieux comprendre ces deux maladies, puisque c'est les deux maladies les plus fréquentes cognitives au monde. Et on est convaincu que mieux comprendre les deux maladies, c'est mieux comprendre l'ensemble de ces troubles cognitifs. Alors cette maladie à Cordelevy, rapidement, c'est 0,7% des personnes de plus de 65 ans. Donc un petit pourcent, si vous voulez, des plus de 65 ans. Mais par contre, c'est 22% des patients qu'on dit déments, c'est-à-dire qui ont d'importants troubles cognitifs, chez les plus de 85 ans, et 15 à 20% des sujets déments en général. C'est-à-dire que ça représente probablement 150 000 à 300 000 personnes en France. Le début de survenue, c'est à partir de 50 ans, avec une augmentation crescendo, et la forme prodromale, qui serait cette forme avant la maladie elle-même, avec des tout petits symptômes, très discrets ou prodromiques, sa prévalence est totalement inconnue. On parlait tout à l'heure des sex ratios, c'est-à-dire la proportion d'hommes et de femmes qui ont ce type de maladie. De façon intéressante, sur cette étude à laquelle nous avions participé et qui est une étude nationale, à partir de 135 000 patients atteints de maladie d'Alzheimer, 10 000 patients Cordelevy et des patients atteints de maladie de Parkinson, nous avions montré que 70% de femmes étaient atteintes de maladie d'Alzheimer en France, tandis que 55% de femmes étaient atteintes de maladie à Cordelevy. Donc il y a une moindre proportion, si vous voulez, le ratio femmes-hommes est différent. Il y a plus de femmes dans les deux cas, mais un peu moins de femmes dans la maladie à corps de Lévy. À l'inverse, dans la maladie de Parkinson, il y a une majorité d'hommes, hein, puisqu'on est de 55 à 57% d'hommes dans cette étude. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie à corps de Lévy? Rapidement, dans la maladie à corps de Lévy, il y a surtout des dysfonctionnements. C'est-à-dire, au départ, le neurone n'est pas détruit. Très rapidement, dans la maladie d'Alzheimer, le neurone est détruit. Tandis que dans la maladie à corps de Lévy, il dysfonctionne. Et le fait qu'il dysfonctionne fait qu'à un moment donné, il s'épuise et il va effectivement disparaître d'une certaine manière. Il y a des dysfonctions à des tas d'endroits dans le neurone, mais il y a surtout des dysfonctions au niveau de la synapse du neurone, qui est vraiment une zone clé du neurone. Les facteurs de risque de cette maladie, c'est la dépression, l'anxiété. Vous voyez, ça multiplie par 6, par 7,5 cette maladie. C'est-à-dire le fait d'avoir une dépression au préalable, d'être particulièrement anxieux au préalable, augmente le risque de maladie à corps de Lévy. Mais attention, attention, il est possible aussi que ce soit en fait des symptômes prodromaux de la maladie. Et moi, mon expérience, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de patients atteints de maladie à corps de Lévy qui commencent leur maladie par une dépression, qui commencent leur maladie par des crises d'angoisse fréquentes et une importante angoisse. Et puis, vous avez aussi l'accident vasculaire cérébral qui multiplie par 3 le risque de maladie à corps de Lévy. Dit autrement, ça n'est pas parce qu'on a fait un accident vasculaire cérébral que tout s'explique par l'accident vasculaire cérébral, malheureusement. Il peut y avoir un accident vasculaire cérébral et en plus une maladie à corps de Lévy. Et puis les antécédents familiaux de maladie de Parkinson, parce que la maladie de Parkinson est une maladie cousine. Et regardez, on retrouve la polypoprotéine 4, ce facteur de risque génétique, il est commun à la maladie d'Alzheimer et à la maladie à corps de Lévy, mais dans la maladie à corps de Lévy, ce facteur de risque est bien moindre. Hein, rappelez-vous, 14,5 contre 2 ici. Voilà, alors à quoi ça ressemble un patient atteint de maladie à corps de Lévy? Ça ressemble à ça, il y a des troubles cognitifs, il y a des fluctuations cognitives et de vigilance, il y a des hallucinations visuelles, on vous en parlait juste avant, mais pas toujours. Et puis, il y a des modifications du comportement pendant le sommeil, c'est-à-dire ce sont des patients qui vont avoir tendance à vivre leurs rêves. Et enfin, c'est des patients qui vont développer un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire qu'ils vont physiquement devenir plus lents dans un premier temps, et puis dans un second temps, avoir une raideur au niveau des membres supérieurs, puis éventuellement au niveau des membres inférieurs. Voilà, alors la recherche rapidement sur la maladie à corps de Lévy sur Strasbourg, en collaboration avec des équipes du monde entier, mais en particulier anglaises et nord-américaines. Eh bien, nous avons montré d'abord qu'au début de la maladie à corps de Lévy, il y avait une diminution de volume au niveau de l'insula, qui est une zone très en profondeur du cerveau, que vous retrouvez ici, cette insula en particulier ici du côté gauche, mais aussi du côté droit qui est atteint. Et puis les régions ici fronto-mésiales, qui expliquent que les patients peuvent avoir aussi une tendance à être apathiques, donc à être moins motivés. On le retrouve ici aussi, cette insula, dans d'autres études du même type. Et on retrouve ici une diminution de la perfusion cérébrale, en particulier au niveau de l'insula, et des régions plus profondes qu'on appelle les noyaux codés. Donc à quoi ça ressemble, cette insula? C'est ça en fait, hein. C'est des zones très profondes. Je vous rappelle, dans la maladie d'Alzheimer, l'atteinte se fait ici au niveau des hippocampes au début. Et ce que nous pensons, nous, c'est que dans la maladie à corps de Lévy, ça se fait juste au-dessus, au niveau des insulas. Et on a démontré aussi, mais on ne l'a pas encore publié, que l'insula probablement expliquerait une partie de la dépression que développent les patients dans cette maladie à corps de Lévy. Et puis on a montré que les patients étaient plus lents au niveau cognitif parce qu'il y avait cette atteinte de zones très profondes qu'on appelle les noyaux codés. Et puis on s'est rendu compte de façon assez originale que les patients atteints de maladie à corps de Lévy pouvaient changer de goût. Par exemple, le goût de ce qu'ils mangent, ils n'aiment plus le sucré, ils vont préférer le salé. Puis d'autres patients vont changer de goût vestimentaire, d'autres vont changer de goût au niveau musical. Et là, à nouveau, ce serait probablement l'insula, en tout cas ce que nous démontrons, qui serait à l'origine de cela. Ici, c'est une autre étude où on a démontré que ces facteurs de fluctuation, c'est-à-dire les patients qui à des moments sont bien, qui conversent parfaitement bien, qui à d'autres moments sont finalement plus moins attentifs, qui ont même parfois du mal à parler, eh bien, ce serait peut-être en lien avec un problème d'interrupteur. Si vous voulez, il y a une sorte d'interrupteur à l'intérieur du cerveau qu'on appelle le réseau de Sayans qui comprend l'insula. Et cette modification d'interrupteur, cet interrupteur qui fonctionne mal, ferait que les patients seraient fluctuants. Nous ne l'avons pas complètement démontré, mais en tout cas, nous avions des éléments très intéressants en IRM fonctionnel. Et puis, dernier élément, et c'est intéressant parce que finalement, vous voyez, il y a des facteurs de risque dans la maladie à corps de Lévy, mais on n'a pas tout éclairé. Eh bien, avec l'équipe du laboratoire, nous avons fait une étude dans la ponction lombaire des patients atteints de maladie à corps de Lévy, que nous avons comparé aux patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et nous avons montré que chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy, il y avait la présence de phtalates. Et on ne s'attendait pas du tout à cela. On pensait, nous, découvrir des résidus de pesticides qu'on n'a pas trouvés, puisque les pesticides sont un facteur de risque important de la maladie de Parkinson, et comme c'est une maladie cousine, on s'attendait à retrouver un peu le même type de choses. Eh bien non, on a retrouvé des phtalates. Alors, ça ne démontre pas que les phtalates sont des éléments qui favoriseraient l'apparition ou l'émergence de la maladie à Cordes-Lévis, mais ça nous interroge fortement, et là, nous demandons des financements complémentaires pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et démontrer ou pas qu'il existe une problématique liée aux phtalates. Là, c'est pour vous dire que dans la maladie à Cordes-Lévis, très tôt, il peut y avoir des confusions juste après l'opération. Vous savez, il y a des patients comme ça, après une opération, qui font une confusion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien, ils sont perdus, ils font même des hallucinations. On dit que c'est parce qu'ils ont eu des anesthésiants qui leur ont fait du mal. Eh bien, ce n'est probablement pas tout à fait le cas. Dans cette étude sud-coréenne, ils ont démontré que dans 44% des cas, c'est une petite cohorte néanmoins, chez les patients qui avaient une chirurgie de l'abdomen et qui faisaient une confusion, eh bien, ils avaient dans 44% des cas des Cordes-Lévis à l'intérieur de l'intestin. Comme si le fait, si vous voulez, d'avoir de Cordes-Lévis, alors il faut savoir, c'est important, c'est un point important, le Cordes-Lévis n'est pas que dans le cerveau, il est probablement aussi dans le reste du système nerveux au niveau du corps. Et le fait d'avoir des Cordes-Lévis à l'intérieur de l'intestin, qui est un biomarqueur, si vous voulez, de l'existence probablement d'une maladie à Cordes-Lévis, favoriserait l'émergence de confusion, ce qu'on appelle délirium en anglais, après une opération. Voilà, donc la maladie à Cordes-Lévis, contrairement à la maladie d'Alzheimer, où si vous voulez, c'est un trouble purement cognitif et d'une certaine manière, comme on vous le disait, 20 ans avant, les lésions apparaissent. Hein, et puis, il y a ensuite une plainte cognitive, puis après des troubles neurocognitifs légers. Et puis arrivent des troubles neurocognitifs majeurs, qu'on appelle d'un nom un peu malheureux la démence. Eh bien, ça, c'est, si vous voulez, c'est commun à la maladie d'Alzheimer et à la maladie à Cordes-Lévis. C'est-à-dire ces troubles cognitifs. Mais ce qui n'est pas commun dans la maladie à Cordes-Lévis, c'est d'autres symptômes qui s'ajoutent, un ralentissement physique, des troubles neuropsychiatriques, notamment une dépression, des hallucinations, un délire, et ce qu'on appelle des troubles neurovégétatifs, avec par exemple des problèmes de tension artérielle qui baissent en se levant ou de constipation. Donc en conclusion sur la maladie à Cordes-Lévis, dans la maladie à Cordes-Lévis, si vous voulez, prodromale, il y a déjà des troubles cognitifs. La dépression est présente souvent, l'angoisse aussi. Il y a probablement d'autres troubles psychiatriques, mais ils sont très peu décrits dans la littérature. Nous rencontrons, dans notre unité cognitive ou comportementale, des patients qui débutent par un délire de persécution, qui débutent par d'autres types de délires. On a démontré, si vous voulez, qu'il y avait des modifications à l'IRM cérébral très spécifiques au niveau de l'insula. Et donc, nous développons un programme de recherche pour essayer de mieux comprendre cette maladie à Cordes-Lévis et en particulier d'essayer de contrecarrer les fluctuations grâce à la stimulation magnétique transcrânienne. J'en profite pour remercier tous les patients et les familles qui nous font confiance en Alsace et dans le Grand Est, mais aussi globalement en France, aux équipes de recherche de Strasbourg, ICUB, le laboratoire de neurosciences cognitives adaptatives, l'IGBMC, l'INSERM U114 et d'autres. Et puis, tous les membres du CM2R de Strasbourg, qui sont pour certains présents dans la salle, et de l'unité cognitivo-comportementale. Et puis, à nos soutiens financiers, Alsace Alzheimer, Fondation Université de Strasbourg, A2MCL et France Alzheimer. Et puis, peut-être un jour, la Fondation Recherche Alzheimer. Je vous remercie.